Avicenne, qui en arabe se dit Ibn Sina, donc est né en 980 et est mort en 1037. C'est un homme qui n'a jamais quitté l'ère culturelle iranienne, alors que, à l'époque considérée, disons, le lieu de légitimation de tous les grands savants était Bagdad, en Irak. Or, lui n'a jamais éprouvé le besoin de s'y rendre, donc il est resté, comme vous disiez, dans l'ère culturelle iranienne. C'est un philosophe, mais pas uniquement, puisque à l'époque à laquelle nous nous référons, c'est-à-dire le 4e siècle, enfin le 10e siècle de l'ère chrétienne et début du 11e, les philosophes n'étaient pas uniquement philosophes, puisqu'ils recherchaient, disons, des vérités universelles, et que ces vérités ou des lois universelles de la connaissance, ils les recherchaient à travers la pensée philosophique, mais aussi à travers la pensée médicale et encore à travers l'astronomie ou même la musique. Donc Avicenne, a essayé, a tenté durant sa vie de constituer un système complet, un système de pensée complet, couvrant à la fois notamment la philosophie, mais aussi la médecine. Il faut dire qu'il a vécu à une époque, on peut considérer qu'il s'agit de l'époque de production originale dans le domaine des sciences rationnelles, à savoir les sciences non fondées sur le Coran, sur la révélation coranique. Tous les contemporains, mais aussi les auteurs postérieurs, s'accordent à dire qu'en effet, l'œuvre d'Avicenne est à la fois magistrale et constitue à la fois un paradigme général de référence. Alors pourquoi a-t-il pu écrire ainsi à son époque, c'est-à-dire fin du 10e, début du 11e? Bien parce que, durant les deux siècles qui l'ont précédé, d'une part, des textes fondamentaux de la pensée grecque furent traduits à l'arabe, comme vous le savez. D'autre part, des institutions furent créées, par exemple la fameuse maison de la sagesse à Bagdad, et à côté de cela, une terminologie, l'arabe s'est doté d'une terminologie scientifique qui n'existait pas à l'origine. Vous savez que cette civilisation a pris naissance, arabo-musulmane, au 7e siècle. Au 7e siècle, la langue, si tant est qu'on puisse la connaître parfaitement, ne comportait pas de terminologie astronomique ou pharmacologique ou philosophique. Donc la terminologie s'est constituée assez rapidement d'ailleurs, et grâce à tout ce travail donc, de traduction, d'assimilation du savoir à la fois grec et indien, eh bien, Avicenne a bénéficié de ce travail antérieur pour évidemment élaborer des concepts qui ont fait autorité de nombreux siècles. Alors, ce que l'on constate quand on se penche sur notre biographie, c'est que le contexte en Iran était favorable aux sciences. C'est ce qu'on appelle le siècle ismaélien de l'islam. À l'époque considérée, la pensée ismaélienne, chiite, si vous voulez, était très favorable aux sciences rationnelles, et Avicenne en a bénéficié largement. Sa vie est une vie errante, est clair, il a rarement passé plus de une ou deux années dans un même lieu pour des raisons multiples, que ce que vous trouverez d'ailleurs explicité dans les textes que j'ai photocopiés. Il y en a une dizaine, donc s'il n'en est pas assez, suivez à deux, ce ne sera pas plus mal. Et un dernier point que j'évoquerai dans cette introduction est le fait que nous disposons d'une autobiographie, ce qui est un fait rarissime chez les penseurs arabes médiévaux. Très peu ont écrit à la première personne. Alors, je dis autobiographie, il faut être plus précis, puisque une partie, comme vous le verrez sur le texte dont il reste un exemplaire là d'ailleurs, c'est bon. La première partie de son autobiographie a été rédigée de sa main, et à partir d'un certain moment, c'est un de ses disciples favoris, Abu Obeid, qui va prendre la succession, et c'est son élève qui va rédiger donc la suite de la biographie d'Avicenne. Alors, quel est mon propos aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, essentiellement, donc, de réfléchir à la manière dont cette autobiographie nous informe sur le parcours de formation de ce savant, relever les influences reçues, relever le rapport d'Avicenne à la connaissance, c'est-à-dire comment, dans le document que nous avons entre les mains, Peut-on imaginer ou réussir à comprendre donc quelle fut la façon, la réflexion épistémologique d'Avicenne et son parcours de formation? Alors, je vais m'appuyer sur quelques points de son autobiographie, bon, je ne vais pas tous les relever, bien entendu. Donc, j'ai relevé une dizaine de points sur lesquels je vais m'arrêter très rapidement. Tout d'abord, sachez qu'il est né au nord de l'Iran, dans une zone qui s'appelle le Khorasan, jusqu'à nos jours, mais qui se trouve actuellement en Ouzbékistan, c'est la région de Boukhara. Il raconte en effet quelques éléments de son enfance, et un peu plus loin, donc, il nous dit que son père était chiite, ismaélien, c'est une des familles chiites bien connues jusqu'à nos jours, bien que minoritaire, et il explique que son père et son frère, qui étaient convertis à cette obédience-là, qui avaient adhéré à cette obédience-là, accueillaient régulièrement des propagandistes chiites qui venaient du Caire. Donc des Fatimides, et ce qui lui a permis de s'initier à la pensée donc religieuse ismaélienne, enfin chiite, si vous voulez. On suit quelques éléments de sa formation, je ne vais pas m'arrêter sur l'ensemble de ces éléments, je vais revenir tout à l'heure plus précisément là-dessus. Il nous dit qu'il a été formé à la philosophie par un philosophe que son père a fait venir, Nathili, Abu Abdallah Nathili, et il nous dit avec un peu d'humour qu'il se targuait de philosophie. Donc ce n'était pas pour lui un vrai philosophe, mais enfin bon, il a appris les bases de la philosophie avec lui. Ensuite, il nous dit qu'il fut attiré par la médecine, qu'il lut les traités médicaux, et il semblerait qu'il ait appris cette science seul, d'après sa autobiographie, alors qu'on sait qu'il a eu un maître, qui est Aboussane El-Massir. Bon. Donc il nous explique que la médecine n'est pas une science ardue et qu'il y a fait des progrès rapides. Ensuite, il va s'intéresser à la logique. Donc, il nous explique à la page 21 qu'il a mis au point un fichier, que pour chaque argumentation, il établissait des prémices syllogistiques, qu'il classait ensuite dans les 10 fichiers, donc cela montre la grande rigueur de cet homme-là, et à la fois le fait qu'il aimait apprendre seul. Et donc ensuite, toutes les fois qu'il se trouvait dans l'embarras, eh bien, que faisait-il, lorsqu'il réfléchissait sur des questions logiques, eh bien, il allait prier à la mosquée en suppliant le Créateur de le guider vers la vérité. Un autre point qui est important, c'est qu'il a bénéficié de l'aide du prince local, Nuh ibn Mansour, qui était un prince samanide, qui était la dynastie qui régnait au Khorasan à cette époque-là, à la fin du 10e, au début du 11e, et qu'il va avoir accès, grâce à la bienveillance du sultan, à la bibliothèque, et là, évidemment, il va travailler d'arrache-pied, donc, à acquérir la connaissance. Donc il nous explique que les ouvrages étaient classés par spécialité, philologie arabe, poésie, droit, etc. Donc à 17 ans, il considère qu'il a terminé l'étude de l'ensemble des sciences, donc évidemment ce qui pour l'époque était naturel, et ensuite donc il s'arrête sur quelques pérégrinations qui nous montrent bien qu'il n'a jamais connu une vie stable, donc en un même lieu pour des raisons politique, des pillages, des renversements de mécènes, enfin de princes qui le soutenaient, etc., etc. Vous avez en page 24 la liste de ses ouvrages les plus importants, en philosophie, en médecine, etc. De nombreuses choses sur l'âme, comme le Kitab el-Najat. Bon, ces deux ouvrages majeurs sont le Shifa et le Qanun. Sachez que cette liste n'est pas complète, loin de là. Et que le père Qanawati au Caire publia dans les années 50 une bibliographie complète de l'œuvre d'Avicenne qui dépasse largement celle-ci. Par exemple, je citerai un cas unique parmi d'autres. On ne trouve pas dans cette liste son fameux traité sur la philosophie illuminative, le fameux ouvrage intitulé donc Mantek el-Mashriqiyyin, la logique des orientaux. Donc, qui fut certes écrit tardivement, mais qu'on ne trouve pas dans cette liste. Ensuite, dans son élève qui prend la relève, explique qu'un soir sur deux, on travaillait sur le canon, le livre de médecine s'élève le canon, et une fois sur deux, sur le Shifa, son livre de philosophie très célèbre. Bon, deux points simplement. Donc, un des émirs qu'il servait, puisqu'Avicenne était à la fois philosophe médecin, mais aussi vizir. Il a été conseiller politique de plusieurs émirs donc iranien, et il explique que des joutes littéraires étaient organisées tous les jeudis soirs, et évidemment l'émir faisait venir de grands savants qui, se livraient à des polémiques donc autour de questions donc métaphysiques, mathématiques ou autres. Voilà. Donc un point que vous devez relever aussi, qu'on pourra relever sur sa vie errante et c'est les périls qu'il a encourus, c'est à la page 35, bas de la page 35, lorsqu'il explique que des hommes, le jour où le sultan Masoud attaqua Ispahan, ces hommes pillèrent les effets du maître, au nombre desquels ce livre qu'on ne pourra jamais plus trace, c'est le Kitab el-Insaf. Hein. Donc cela vous montre dans quelles conditions cet homme a à la fois appris et exercé son art dans cet Iran médiéval donc, que nous connaissons bien. Alors, que peut-on tirer de tout ceci? Je vais tâcher donc d'exploiter, du point de vue épistémologique, toutes ces données. Alors, sachez que les savants de ce temps étaient extrêmement préoccupés par la classification des parties du savoir, des sciences. Pourquoi? Eh bien, parce que cette classification des sciences avait une influence directe sur le cursus que devait suivre l'étudiant pour acquérir les dites sciences. Et, par exemple, évidemment, l'objectif final était de maîtriser l'ensemble de la connaissance humaine du temps. Dans le domaine des sciences rationnelles, qui était la spécialité d'Avicenne, puisque les sciences religieuses, il ne les a pas pratiquées, ou très peu, à la marge. Alors, nous savons que son maître en médecine, Abu Salih al-Masihi, qui n'est pas cité dans cette autobiographie, Abu Salih al-Masihi est mort dans les années 1119-1120 et on lui doit un traité qui s'intitulait « Les catégories des sciences philosophiques » « Kitab fi ansaf el-ulum el-hikmiya ». Alors Abu Salih al-Masihi classe les sciences dans cet ordre et ça sera, en fait, nous verrons que le cursus de formation d'Avicenne suit assez largement donc cette classification établie par Abu Salih al-Masihi. La première science, donc, est la logique. Nous sommes dans le cadre des sciences rationnelles, bien entendu. Hein. La logique inspirée d'Aristote via Farabi, via Matta ibn Yunus. Dans cette partie, évidemment, Abu Salih intègre donc la rhétorique, la poétique et la sophistique. Ensuite, il s'arrête sur les sciences particulières. Ces sciences particulières sont de deux types. D'une part, les sciences dites mathématiques, d'autre part, les sciences dites non mathématiques. Parmi les sciences mathématiques, bien entendu, la géométrie, l'arithmétique, qu'on appelait à l'époque le calcul indien, le hisab al-hindi, l'astronomie, l'astrologie et la musique. Ne vous étonnez pas de voir, côte à côte l'astronomie et l'astrologie, car ces deux sciences étaient imbriquées très largement. On distinguait le savant par leur nom, l'un s'appelant Mounajim et l'autre s'appelant Alem ou Falaki, c'est l'Alem et le Falak. Hein. Donc voilà pour les sciences donc, mathématiques. Les sciences non mathématiques, d'après Abu Salih, qui reprend d'autres auteurs antérieurs, hein, Farabi a écrit un traité, Hassan al-Ulum, sur la classification des sciences, nous avons le Khawarizmi, hein, auquel on voit les clés des sciences, Mafatih al-Ulum, etc. Donc c'était une nécessité, si vous voulez, que de connaître, maîtriser la classification afin de suivre pas à pas cet ordre, si vous voulez, dans la formation. Dans le cursus. Dans les sciences non mathématiques sont la médecine, dont là évidemment Avicenne reprend Razi Razès, ou bien un médecin damascain qui s'appelait Masih el-Dimashqi. Entre parenthèses, Masih est un chrétien, et vous devez savoir que de nombreux savants qui cultivaient les sciences rationnelles étaient des chrétiens, voire des juifs, ou même des zoroastriens. À côté des sciences particulières se trouvent les sciences universelles qui classent en troisième catégorie, notamment la physique, la métaphysique, et là aussi, évidemment, il y a une influence directe d'Aristote via le grand philosophe Elkindi. Ensuite vient la philosophie pratique, c'est-à-dire l'éthique, la politique, et là, évidemment, ce n'est plus Aristote, mais Platon qui a marqué la pensée avicénienne. Donc on peut donc considérer que la formation d'Ibn Sina, d'Avicenne, s'inscrit dans cette tradition. Et on sait que jusqu'à 22 ans, il vécut à Bukhara, la capitale donc, du Khorasan. Cette capitale était au Xe siècle une ville ayant une grande importance culturelle, dotée de grandes bibliothèques, avec une vie scientifique assez remarquable. Donc son autobiographie, dans son autobiographie, il indique précisément les sujets qu'il étudia, ainsi que son âge à chaque étape de son parcours, et il indique également les noms de quelques-uns de ses maîtres. Même si la plupart des sciences, il les a acquises par son effort personnel, il y a quand même quelques maîtres donc, sur lesquels il nous donne quelques informations. Alors on peut résumer son itinéraire scientifique, son cursus comme suit. De 6 ans à 10 ans, il a acquis le Coran, donc il a appris le Coran par cœur. Il a acquis des notions d'ismaélisme, puisque son père accueillait les propagandistes ismaéliens, non chiites. Il a acquis des éléments d'arithmétique auprès d'un épicier du quartier. De 10 ans à 16 ans, bon, évidemment, les âges sont approximatifs, bien entendu, de 10 ans à 16 ans, il a acquis la jurisprudence, la logique, notamment l'isagogé de Porphyre, et l'organon, avec un philosophe que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelait Ennatelli. Il s'est penché sur les mathématiques, et là, évidemment, l'ouvrage de référence était les éléments d'Euclide, dont il dit qu'il a travaillé avec Nathalie, mais qu'il a travaillé aussi lui-même tout seul. Ensuite, donc, l'Almageste de Ptolémée, dont il nous dit que Nathalie l'a ouvert cet ouvrage, mais que lui-même a travaillé seul dessus. Pour ce qui est de la physique, il ne cite aucun maître. Pour ce qui est de la métaphysique, non plus. De 16 ans à 17 ans et demi environ, il se penche sur les sciences philosophiques, donc la logique, les mathématiques, la physique, dont il nous dit qu'il les a acquises par lui-même. En ce qui concerne la métaphysique, il nous dit qu'il a eu du mal à comprendre donc, cette science, mais que grâce à un ouvrage qu'il a acheté dans le souk chez un bouquiniste, dont Farabi était l'auteur, qui s'appelle « Les buts de la métaphysique », eh bien il a compris tout d'un coup, évidemment, quels étaient les mystères de cette science fondamentale. De 17 ans et demi à 18 ans, il nous dit avoir travaillé dans la bibliothèque du prince Nour ibn Mansour sur les livres des anciens. Donc je pense que là il s'agit évidemment de tout, des ouvrages de la tradition alexandrine, une tradition évidemment extrêmement vivante à son époque. Et c'est là qu'il va rédiger à 18 ans son premier ouvrage, que l'on pourrait considérer comme étant le master, si on peut transposer ceci à notre époque. Le Master 2, le mémoire de Master, c'est un compendium sur l'âme. Voilà. L'âme, Avicenne va être préoccupé par cette question, puisqu'on lui doit plusieurs ouvrages, évidemment, et un poème qui s'appelle le poème de l'âme. Donc, pourquoi un poème de la part d'un philosophe ? Eh bien, parce que les poèmes étaient destinés à aider l'étudiant à mémoriser l'essentiel des parties d'une science. Hein. C'était un moyen mnémotechnique permettant d'apprendre par cœur, évidemment, mémoriser dans une bonne partie, si vous voulez, des fondements d'une science. Donc, ce compendium sur l'âme s'appelle Kitab el-Majmoua, en arabe. Donc, c'est son master. Ensuite, il va faire une habilitation. L'habilitation à diriger des recherches, si on veut le transposer de nos jours, c'est un ouvrage qui s'appelle Al-Hasil ou Al-Mahsoul, pour les arabisants qui sont dans la salle. Ce qui signifie en arabe, en français, le compendium de philosophie. C'est-à-dire, le titre veut dire le livre du quêteur et de sa quête. Hasan al-Mahsoul. Donc, le livre du quêteur et de sa quête, qui est un livre de philosophie, il contient donc plusieurs parties sur les sciences théoriques, logique, physique, métaphysique, mais aussi sur la philosophie pratique, l'éthique. Alors, donc, le parcours d'Avicenne, comme vous l'avez constaté, ne fait apparaître aucune formation en théologie musulmane ou en exégèse, tafsir. Bon, ceci peut se comprendre par le fait qu'il y avait une distinction très claire des sciences cultivées à cette époque-là. D'une part, les sciences, traditionnelles, qu'on appelait l'ulum al-naqliya, qui étaient les sciences fondées sur la vérité révélée. Le Coran, bien entendu. avec un grand V, et il s'agissait des sciences à la fois théologiques, mais aussi des sciences de la langue, puisque l'arabe étant la langue du Coran, les anciens considéraient que les études linguistiques étaient des études appartenant à cette catégorie-là. Et l'autre grande catégorie, ce sont les sciences rationnelles, donc inspirées des Grecs, des Indiens également, et Avicenne, donc s'est spécialisé dans ces sciences-là. Donc il n'avait pas, si vous voulez, particulièrement besoin de travailler les sciences traditionnelles, bon, bien qu'il ait travaillé quand même un petit peu le droit. Alors, on voit dans cette autobiographie qu'Avicenne a étudié les sciences philosophiques en suivant le modèle qu'Aboussane lui avait soumis, sur lequel je viens de m'arrêter. Donc ce modèle de formation, tel qu'Aboussane le présente dans son ouvrage sur la classification des sciences, reprend assez largement le modèle alexandrin, de l'école d'Alexandrie. Et ce modèle d'Alexandrie est lui-même inspiré d'un modèle aristotélicien antérieur. On remarque qu'Avicenne apparaît dans cette autobiographie extrêmement systématique, dans l'ordre d'acquisition de la connaissance, mais on voit également qu'il se donne les armes dont il a besoin pour, approfondir son étude de la philosophie et des autres sciences comme la médecine. D'une part, il a besoin de la langue arabe. Or, vous savez que la langue arabe n'est pas sa langue maternelle. Avicenne était un persan, dont sa langue maternelle était le dialecte du Khorasan. Et en plus, il n'a pas quitté l'espace persan. Donc, la langue arabe était pour lui une langue acquise. Mais elle correspondait à cette époque-là, pour les savants, à ce qu'était le latin à l'époque médiévale. Donc, c'est la lingua franca de tous les savants. Nous avons une anecdote assez amusante d'un de ses contemporains qui s'appelle, qui était aussi originaire de Khorasan, du Khwarizm, à côté de Khorasan, qui s'appelle Biruni, et qui dit dans un de ses ouvrages, sa langue maternelle était la langue khwarizmienne, la langue locale, je préfère être insulté en arabe que loué dans mon dialecte maternel. Donc ça montre bien le peu de considération qu'il avait pour sa langue maternelle, mais aussi le respect qu'il avait pour cette langue, qui était devenue une langue scientifique au XIe siècle. Biruni est mort en 1148, vous voyez, au milieu du XIe. Donc, la langue tout d'abord, ensuite, la langue ne suffit pas, il faut évidemment maîtriser les outils de l'argumentation. Ces outils d'argumentation sont fournis par la logique, il faut savoir convaincre dans la dialectique, et évidemment ensuite se spécialiser dans les sciences philosophiques, et surtout la métaphysique était considérée comme la science philosophique majeure. Donc pour lui, la connaissance ne peut être que philosophique. Il n'y a pas de salut pour l'homme, si ce n'est par la philosophie. Alors, quels sont maintenant les modes d'accession à la connaissance donc, qu'il évoque dans son autobiographie ? Le premier mode d'accession à la connaissance, c'est pour lui l'intuition, ce qu'en arabe on appelle el-hats. Dans sa philosophie, enfin dans l'ouvrage qu'il a intitulé « La philosophie à Ala al-Dawla », qui était un des émirs iraniens de son époque, l'émir Bouyid, la dynastie des Bouyides, dans sa philosophie à Ala al-Dawla, Ibn Sina estime que la connaissance des intelligibles, le marqulat, qui est la connaissance des moyens termes des syllogismes, exprimant une proposition admise, cette connaissance doit être acquise soit par l'instruction, soit par l'intuition. L'intuition étant pour lui, le hatz, le degré supérieur de la perception des intelligibles. Et cette perception est réservée à une élite. Cette élite est évidemment pour lui composée par les philosophes essentiellement. Donc cette notion de hatz est importante. Plus loin, il va vous expliquer que cela correspond à une espèce d'effluence de la connaissance sur l'homme, de faïd, un peu comme de l'eau qui se déverse. La connaissance est une forme d'eau sacrée, si vous voulez, ou bénie, qui se déverse sur le savant sans qu'il ait besoin de beaucoup d'efforts. Donc, il écrit par ailleurs dans le livre qui s'appelle Najat, qui est un résumé du Kitab al-Shifa, qu'on traduit en français par La Salvation. Le livre de la salvation, de l'âme, il nous dit ceci: l'acquisition du savoir par un maître ou par soi-même est de différents types. certains ont de plus grandes facilités à concevoir des concepts, ils emploient le terme tasawwur, que d'autres, en raison de leurs prédispositions intellectuelles. Si tel est le cas, cette prédisposition puissante sera appelée intuition. Et il emploie toujours le mot de puissant. Elle est si puissante que certains individus, sans effort, sans instruction ou sans entraînement particulier, peuvent entrer en contact avec l'intellect agent, hein, qui est le dispensateur de connaissances. Donc, premier point, premier mode d'accession à la vérité, à la connaissance, donc l'intuition. Le deuxième point est constitué par l'étude. Vous constaterez en lisant l'autobiographie que c'est un homme qui avait une force de travail assez considérable et que nuit et jour il travaillait, puisque durant la journée il était vizir au service des sultans, des émirs bouyides, plusieurs émirs comme Al-Dawla, Shams al-Dawla, etc. Et le soir il travaillait avec ses élèves, il dispensait son enseignement, et donc la nuit il écrivait. Donc il lui restait peu de temps pour d'autres préoccupations que celles de la connaissance ou de l'administration. Donc le deuxième mode d'accession à la connaissance est l'étude. Ibn Sina a été conscient que sa capacité d'intuition, quoique forte, ne lui permettait pas d'accéder au savoir sans étudier. Contrairement par exemple aux prophètes, car les prophètes bénéficient justement d'une accession directe à la connaissance. Donc, Avicenne n'étant pas prophète, devait malgré tout travailler. Son autobiographie le montre lisant de nombreux ouvrages, rédigeant des fiches mnémotechniques, priant, échangeant avec ses disciples ou avec des collègues, mémorisant ses propres ouvrages, absorbant des toniques comme le vin, ou bien se délassant avec des musiciens et des chanteuses, ou encore relisant les textes de référence. Donc, ce que l'on remarque dans son discours, c'est qu'il rejette toute autorité traditionnelle. À aucun moment, il ne se réfère à un savant, un philosophe antérieur, sauf lorsqu'il nous parle de Farabi et de son ouvrage sur la compréhension de la métaphysique. Donc, il rejette toute autorité traditionnelle, qu'on appelle en arabe taqlid. Et il rejette tout sectarisme, c'est-à-dire qu'il ne constitue pas, il ne souhaite pas constituer une école. Il recourt systématiquement à la vérification du bien fondé des hypothèses, ce qu'il appelle tahqiq en arabe. Il s'appuie également sur la détermination des validités des hypothèses, tahsil, d'où le caractère essentiel de la logique dans ce schéma épistémologique, pour atteindre, à partir du connu, l'inconnu. Un autre point que je dois évoquer, également, comme mode d'accession à la connaissance, c'est la prière. L'autobiographie nous montre Avicenne priant à la mosquée lorsqu'il avait du mal à découvrir le moyen terme d'un syllogisme. Il me semble qu'il ne s'agit pas là d'une manifestation de sa piété, mais de sa conviction qu'il existe un lien fort, puissant, entre la prière et l'intuition. L'intuition, donc, qui est évidemment chez lui fondamentale. Dans un court traité intitulé « De la nature de la prière », Avicenne distingue la prière du corps de celle de l'âme. Celle de l'âme rationnelle dont la fonction est d'appréhender les idées subtiles. Pour ce faire, elle doit dominer l'âme animale et l'âme végétale, c'est-à-dire elle doit détacher l'homme, l'individu, des préoccupations terrestres et jusqu'à l'en abstraire totalement. La prière, en purifiant l'âme, prédispose l'homme à l'effluence, au faïd, que j'ai dit tout à l'heure, du Seigneur, du Créateur. Ibn Sina, dès son premier ouvrage, qui s'intitulait, je vous le rappelle, « Le compendium sur l'âme », Kitab al-Majmour, avait évoqué la tradition grecque qu'il connaissait bien, notamment la tradition représentée par Asclépius, qui soignait ses patients par la prière. Donc il y a là des réminiscences d'une tradition grecque. Il ne faut pas, évidemment, pour l'époque à laquelle nous référons, le XIe siècle, il ne faut pas imaginer que les hommes vivaient dans leur tour d'ivoire. Les notions scientifiques circulaient à une vitesse peut-être pas aussi vite qu'avec les moyens actuels, Internet et autres, mais on est toujours frappé de voir à quelle vitesse tel ouvrage est transmis, écrit en Iran, se retrouve en Espagne musulmane, en Andalous, et vice-versa. Voyez. Donc la connaissance que ces savants avaient du patrimoine scientifique ancien est assez effarante, de même que la connaissance du patrimoine indien, c'est une idée à laquelle je suis assez attaché, puisque traditionnellement, on considère que la philosophie arabe était issue des Grecs, point barre. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir que les Arabes ont écrit des philosophies arabes. On va voir si les gens étaient arabes ethniquement. Il y avait des Iraniens, etc., des Berbères, des Turcs, etc. Oui, je vous disais que la connaissance, les notions circulaient à une vitesse assez étonnante pour l'époque. Mais là, l'idée m'échappe. Peu importe, je vous parle exactement.
Sur l'apport de la pensée indienne.
L'apport de la pensée indienne, voilà. Donc, je vous disais que on met souvent l'accent sur l'apport grec et on néglige l'apport indien qui était important. Je vous disais que les notions circulaient rapidement et on sait qu'au Xe siècle, à Bagdad, il y avait des savants indiens et il y avait des ouvrages traduits du sanskrit, ce qui nous est attesté par un grand libraire, Ibn Nadim, qui a écrit un ouvrage dans lequel il répertorie les ouvrages et il y a tout un qui était disponible à Bagdad au milieu du Xe siècle. Il nous dit, voilà, il y a des ouvrages indiens et voilà, il les énumère, des ouvrages de magie, des ouvrages de philosophie, des ouvrages de théologie, etc. Et on relève plusieurs ouvrages, donc, venus d'Inde. Voilà pour ce qui est, donc, du point concernant la prière. Un autre mode d'accession à la connaissance est constitué dans cette autobiographie, si vous la relisez attentivement, vous le verrez, par les rêves. Alors, c'est une démarche épistémologique intéressante, assez proche de la prière, philosophique, et donc les rêves permettent chez Avicenne également la réception par l'âme rationnelle des intelligibles issus de l'intellect agent. Avicenne pensait que le sommeil favorisait l'acquisition d'une part de l'inconnu, c'est-à-dire du monde des intelligibles, les marcoulates, et il écrivait ceci: aucun individu n'échappe, en dormant, aux rêves véridiques, ou étant éveillé à la perception intuitive. Donc ces rêves véridiques, que sont-ils? Eh bien, ils constituent une partie, si vous voulez, du rêve, ce qu'on appelle l'arabe le rêve, c'est-à-dire de ce qui est inaccessible à l'homme, sauf par l'intuition. Un autre élément d'accession à la connaissance qui a été assez controversé, que vous retrouvez dans l'autobiographie, c'est le vin, le khamr, ou le sharab. Ibn Sina a écrit dans son autobiographie ceci: chaque fois que le sommeil me gagnait ou que je faiblissais, j'allais boire une coupe de vin afin de recouvrer mes forces. Puis je me remettais à lire. Bon, alors évidemment, si un cheikh actuel disait ceci, bon, un cheikh analphabète s'entend, certains sont très érudits et très savants. Prenons le cas du cheikh analphabète, il va hurler en disant que c'est haram. Vous allez voir, c'est pas si simple. Donc, j'allais boire une coupe de vin afin de recouvrer mes forces, puis je me remettais à lire. Ceci est dans la page 21 de votre document. Cette mention lui valut des critiques de la part de musulmans orthodoxes. En tant que médecin, il considère que le vin est une drogue, un tonique. Il suffit de se référer aux traités pharmacologiques qui circulaient de son temps, ou même à son canon de la médecine, puisqu'Avicenne, vous le savez peut-être, est l'auteur de nombreux ouvrages, mais deux ouvrages majeurs, l'un en médecine, qui s'appelle le canon de la médecine, le mot canon vient du grec, canon veut dire la loi, hein, le document faisant référence en médecine, donc c'est un ouvrage théorique dans lequel il recouvre l'ensemble des doctrines médicales, donc tel qu'il les imaginait lui-même, et l'autre ouvrage, un ouvrage de philosophie, dans lequel la partie métaphysique est fondamentale, c'est le fameux Kitab al-Shifa. Et certains nous disent, évidemment, jusqu'à maintenant, puisque le mot Shifa en arabe veut dire guérison. Donc le livre de philosophie, c'est le livre de la guérison des âmes, alors que le canon est le livre de la guérison des corps. Canon fito. En arabe, on l'appelle le canon en médecine. Bon. Donc, lui-même, dans son canon, aborde le vin comme étant un produit, un simple, un produit médicinal, tonique. Et une autre idée qui prévaut chez lui, c'est que l'élite, c'est-à-dire les philosophes, encore une fois, ne se laisse pas dominer par le vin. C'est-à-dire que seul, contrairement à la plèbe, c'est-à-dire seul l'homme du commun s'enivre de biens blasphèmes, etc., etc. C'est un philosophe digne de ce nom doit boire, avec modération probablement, et doit maîtriser toujours sa raison. Donc, mais là, dans ce cas-là, le vin est un tonique, un stimulant. Donc l'élite ne se laisse pas dominer par le vin, contrairement à la plèbe. Et dans son canon de la médecine, Avicenne indique que le vin favorise la dissémination dans l'organisme des nutriments. Des aliments, et que d'autre part il expulse les humeurs pécantes, les mauvaises humeurs, dont notamment l'atrabile, qui est, je vais vous dire un mot si vous voulez, l'atrabile qui était considérée comme étant à l'origine de tous les troubles mentaux. Donc si, le vin, normalement, doit expulser dans l'atrabile et favoriser, si vous voulez, l'acuité de l'intellect. Sauf pour celui qui n'est pas maître, évidemment, de ses passions. Alors, cet atrabile, un mot entre parenthèses, pas une atrocée, comme on dit en arabe, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas dans les humeurs, dans les fluides que notre corps contient, vous ne trouverez jamais l'atrabile. Alors, vous savez que c'est une théorie grecque, hein, qui nous vient d'Hippocrate et de Galien, qui est la théorie des humeurs. C'est-à-dire qu'elle considère que dans le corps humain, quatre fluides circulent, le sang, la bile, bon, jusque-là ça va, le flegme, bon, on peut imaginer encore, ce sont une humeur assez négative, et puis la trabile, qui veut dire, à partir du grec, la bile noire. Et donc cette bile noire, dont on ne sait pas très bien dans quel cas les médecins aient pu l'observer, peut-être dans les cas de choléra, vous savez, peut-être. Donc les médecins croyaient que cette atrabile, bile noire, donc saouda en arabe, était à l'origine de la plupart des maladies touchant le psychisme, et notamment la mélancolie. Le malicholia qui était désigné par un terme grec, malicholia, la transcription du grec. Bon, mélancolie qui veut dire l'humeur noire. En fait, hein. Voilà. Donc Avicenne considère que le vin est propice à l'expulsion, l'évacuation de cet atrabile et donc favorise l'équilibre psychique et l'acuité de la réflexion. Alors cela signifie que évidemment le vin doit être consommé avec modération en tant que drogue si vous voulez et que dans ce cas-là il stimule l'activité mentale, nous dit-il, au point que l'esprit humain atteint le summum de ses capacités dans ce cas-là. Bon, le vin comme tonique est une tradition extrêmement connue, même dans nos sociétés, où il n'était pas rare, au 19e, que les gens prennent, en cas de faiblesse, hein, prennent une coupe de Porto, par exemple, ça se faisait beaucoup. Hein. Les médecins, donc, c'est des vins assez capiteux. Alors, le problème est de savoir, pour les pauvres qui nous considèrent, qui nous intéressent, de savoir à quoi ressemblait le vin, en fait. On peut imaginer qu'il s'agissait de vin mêlé, soit coupé d'eau, hein, comme les poètes nous disent, le safra, soit mêlé de miel, hein, donc un peu la manière des Romains, si vous voulez. Donc, au sujet du vin, Avicenne a écrit un traité intitulé « De la diététique et des effets positifs ou négatifs du vin ». En arabe, cela donne « siyasat al-badan wa fada'il al-sharab wa manafi'uhu wa madaruhu ». Bon. Donc, il n'y a rien de choquant là-dedans, puisque c'était une drogue médicinale et que tous les médecins ont écrit peu ou prou dans leur traité de pharmacologique de ce produit-là. Donc, il est clair que pour Ibn Sina, la consommation de vin ancrée dans une tradition perse ancienne, et ça il faut le dire aussi, à l'époque sassanide, le vin était considéré déjà comme un tonique, eh bien, car on ne peut pas imaginer qu'Avicenne n'ait pas été marqué également par la tradition culturelle perse ancienne, donc il est clair que pour lui, la consommation de vin s'inscrit dans un processus épistémologique au même titre que les rêves, par exemple, dont j'ai parlé à l'instant. Donc la conclusion de mon propos pourrait être la suivante. Dans l'épistémologie étant la science de l'élaboration et de la transmission des savoirs, j'aurais pu mettre en relief d'autres modes d'accession à la connaissance évoqués dans l'autobiographie, par exemple le concept de Tarquin, qui est très important, de vérification, tel que nous le trouvons dans ce texte-là, mais évidemment développé dans d'autres textes philosophiques, tel que la validation, le Tarsil, tel que la déduction, l'Istinbat, qui est un outil important à côté du syllogisme, bien entendu, pour accéder à la connaissance. Mais évidemment, le temps me manque et c'est un autre propos. Alors, une autobiographie est toujours un document difficile à interpréter, car forcément tendancieux. Elle représente un éclairage partiel sur un moment de la vie de l'auteur et sur son œuvre. Ici, Ibn Sina n'a aucun contrôle sur l'interprétation que les savants postérieurs feront de ce texte. Pour les chercheurs actuels, il représente une source d'information majeure sur la formation de ce philosophe, ses voyages, ses contacts avec les milieux palatins, ses contacts avec les intellectuels, son rôle de maître es philosophie, et également sa bibliographie, même si, comme je vous l'ai dit, elle est partielle. Alors la figure qui émerge de la lecture de cette autobiographie est celle d'un génie dépassant en quelques années ses maîtres, d'un travailleur acharné, d'un solitaire qui n'a jamais appartenu à aucune école de pensée, et surtout d'un homme se glorifiant bien souvent d'avoir appris seul la plupart des sciences. Bon, peut-être y a-t-il évidemment des lacunes dans cette autobiographie, puisque en médecine par exemple, on sait que par d'autres auteurs contemporains qu'il eut au moins un maître qui est Abou Sa'd al-Nasiri dont vous parlez, or il ne le cite pas dans son autobiographie. Même chose pour sa production. Les ouvrages, donc certains ouvrages écrits par Ibn Sina n'ont pas été intégrés dans son autobiographie, ce qui montre bien quand même qu'il faut être extrêmement prudent. Alors à bien y regarder, on pourrait trouver quelques similitudes entre sa biographie et celle d'Aristote, telle qu'elle circulait en arabe dans deux versions, celle de Ptolémée et celle dite d'Alexandrie. Mais cela est évidemment une autre question. Et en effet, quand on compare les deux parcours, on relève des similitudes importantes entre le parcours d'Aristote, enfin, le curriculum d'Aristote, et le curriculum d'Avicenne. Alors, il reste une question, qui reste en suspens, si vous voulez, c'est la question de savoir quand fut rédigée l'autobiographie. On pourrait imaginer qu'elle le fut en 1013, peu après la rencontre d'Avicenne avec celui qui sera son disciple favori, Abu Ubayd al-Jurjani. Alors là, je dois vous dire également que, contrairement à nos jours, les savants de cette époque-là, mais cela a été le cas aussi dans les universités européennes naissantes au XIIIe siècle, à la Sorbonne en particulier, les élèves vivaient, passaient leur temps avec leur maître. C'est-à-dire que c'est comme si de nos jours, vous viviez dans la même maison que votre maître, votre professeur. Et Avicenne a passé sa vie, bien que, comme je vous l'ai dit, ayant mené une vie errante, suivi par une dizaine ou une quinzaine de ses disciples. On connaît le nom de Jozani, on connaît aussi le nom de son frère, Ahmad, un de ses frères, a vécu avec lui 25 ans de sa vie. Voyez. Donc, cette rencontre avec El-Jozani est située, on peut la situer en 1013, et je pense que son autobiographie n'a pas été rédigée à ce moment-là, puisqu'il évoque des ouvrages beaucoup plus tardifs, donc ce qui signifie que, je pense de façon plus assurée, cette autobiographie, en partie rédigée par son disciple, fut rédigée donc dans les années 1030-1035, peu de temps avant, quelques années avant sa mort. Donc, essentiellement parce que, d'une part, une bonne partie des ouvrages qu'il a écrits, enfin, quelques-uns des ouvrages qu'il a écrits, s'y trouvent mentionnés, et que d'autre part, là, il mentionne les vizirs sous les ordres desquels il a travaillé, et qu'en effet, cette vie de vizir, il l'a menée sur de nombreuses années. D'ailleurs, il est mort alors qu'il accompagnait un des émirs de Hamadan, donc combattre un de ses ennemis. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on l'aura compris, nous sommes en présence d'une figure éponyme de la science arabe, au même titre que Farabi ou Qaberoès. Et d'ailleurs, les auteurs postérieurs ne s'y sont pas trompés, puisque systématiquement, ils désignent Avicenne non pas par son nom, mais par son surnom. Ils l'appellent soit Abu Ali, qui est une manière, c'est la kunya donc très caritative, de parler de quelqu'un, donc d'un ami par exemple, soit, plus couramment, ils l'appellent Cheikh Raïs. Cheikh Raïs en arabe, ça signifie le cheikh qui est à la tête, Raïs qui est le premier. Hein. Donc, entre les occidentaux, on traduit cela par le prince des savants, ce qui correspond à la réalité. Et vous devez savoir qu'en Inde, jusqu'à nos jours, non pas sa philosophie, mais sa médecine reste pratiquée largement, et on l'appelle Tib et Unani, qui veut dire la médecine grecque, en fait c'est la médecine gréco-arabe. Et quand il parle, quand les médecins disons, actuels pratiquant la médecine traditionnelle en Inde veulent parler d'Avicenne, ils l'appellent le Cheikh Abu Ali, ou bien Cheikh Raïs, systématiquement. Oui. Donc ça veut dire que son aura a dépassé largement les frontières de l'Iran, vers l'Orient, vers l'Inde, mais aussi vers l'Occident, puisque Avicenne fut traduit, et je conclurai par là, pour laisser la parole, Avicenne fut traduit à Tolède, au XIIIe siècle. Vous savez qu'une école de traduction fut créée par l'archevêque Raymond d'Agen. Les traducteurs du latin vers l'arabe ou de l'hébreu vers l'arabe étaient tous des moines, des religieux, contrairement à ce qu'étaient les traducteurs orientaux qui traduisirent du grec vers l'arabe, qui étaient des laïcs pour la plupart. Et donc Avicenne, trois de ses ouvrages majeurs furent traduits, le Canon de la médecine par Gérard de Crémone, même chose pour le Kitab al-Shifa, le livre de la guérison des âmes, le Kitab al-Shifa, et aussi le résumé du Kitab al-Shifa qui s'appelle le livre de la salvation, Ben-Najaf. Et peu après que ces traductions ont été achevées, eh bien, les premières universités européennes furent créées. C'est-à-dire que la traduction de l'arabe et de l'hébreu vers le latin va précéder de peu la création des universités où ces textes traduits vont être la base de l'enseignement. Ils seront critiqués, notamment à Véroès, par Saint-Thomas d'Aquin, mais enfin bon. La plupart, alors pour ce qui concerne la médecine, le canon de la médecine a été inscrit, dans les programmes d'université européenne, bon, les premières étant Oxford, Montpellier, Bologne et Paris, jusqu'au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on enseignait la médecine à partir du canon, essentiellement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez maintenant une idée plus claire de ce que fut ce personnage. Et de ce que fut son œuvre, bon, et aussi de l'originalité de son parcours.